agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Ascolta, Carlo, mi senti? Mi senti, Carlo, un trionfo? Siamo i più grandi, Carlo. Se il padre potesse vedere, se potesse vedere tutto questo. Se non te l'ho sognato, Carlo. L'ho sognato, era là. Era qui, in questo teatro.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Un jour que Francis Ford Coppola rendait visite à sa fille Sofia sur le tournage du film que celle-ci préparait à propos de Marie-Antoinette, il s'écria soudain « Mais cette reine, c'est Diana, c'est Lady Di !» Il formulait ainsi, comme vous voyez, une belle concordance des temps. Il évoquait la rencontre entre une notoriété universelle et le désir affirmé d'échapper à ses diverses contraintes. Il entendait le contraste entre l'aspiration à l'incognito et le goût de suivre des modes auxquelles seuls les regards d'un vaste public peuvent donner leur éclat et fournir à qui les incarne une jouissance très spécifique. C'est de la célébrité que nous allons parler aujourd'hui et de ce qu'Antoine Lilti appelle son invention de 1750 environ jusqu'au vers 1850, pendant un siècle tout juste. Antoine Lilti est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et il vient de consacrer à ce sujet un ouvrage passionnant qui foisonne en rapprochement entre ces temps éloignés et notre vie contemporaine. Nous nous trompons lorsque nous sommes portés à croire que ce sont les médias du dernier siècle qui ont fait surgir à profusion les vedettes, les stars, celles qui gravissaient joyeusement les marches du Festival de Cannes la semaine dernière, ou encore les personnalités politiques et les quelques intellectuels et écrivains qu'entourent une curiosité dévorante, dépassant largement leurs écrits. La chose est en fait bien plus ancienne, et c'est ainsi que scruter les ressorts, les procédés et les conséquences de la célébrité en construction autrefois doit conduire à mettre heureusement en perspective le fonctionnement du même phénomène au plus immédiat de notre quotidien.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachaient les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Antoine Lilti, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert, vous y attendiez peut-être, la célébrissime chanson de Charles Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, 1960. Nous ne pouvions pas y échapper parce qu'on y trouve déjà tous les thèmes que nous allons avoir à traiter ce matin ensemble.
Oui, c'est une chanson absolument magnifique de ce point de vue-là. Et effectivement, le désir de célébrité, l'aspiration à la célébrité, comme figure moderne justement de ce qui est du succès, de la réussite, c'est-à-dire de la reconnaissance publique. Le public ici, le jugement du public, alors l'injustice du public pour celui qui n'est pas devenu célèbre, est extrêmement présente.
Il y a l'argent, il y a les femmes, il y a le regard des femmes en particulier.
Depuis le 18e siècle, on y reviendra, est associé cette capacité, le pouvoir de séduction de l'homme public, ou de la femme publique d'ailleurs, est extrêmement présente. Et on voit bien finalement les deux éléments qui caractérisent la célébrité, c'est-à-dire le nom, en beaucoup plus gros que tout mon nom s'affichait, et puis la publicité du visage, en photographie, les photographies qui circulent. Donc le nom sur l'affiche, et puis le visage qui est connu de tous et qui circule dans les médias, les deux facteurs de la célébrité et du succès public.
Et dans le cas d'Aznavour, évidemment, c'est par antiphrase, puisque 55 ans après avoir interprété cette chanson en 1960, il est encore en haut de l'affiche, il se produit encore sur scène, à 92 ans.
Oui, c'est un cas en fait très tout à fait étonnant d'une célébrité qui dure aussi longtemps, parce que très souvent, justement, on définit la célébrité comme étant plutôt transitoire, fugitive. Et là, on a une célébrité qui a fini par se construire en véritable gloire durable pour Aznavour.
Ce mot de célébrité auquel vous vous attachez, la chose et le mot, mérite qu'on s'y attarde, parce que elle n'a pas signifié dès l'origine ce que elle veut dire aujourd'hui. Et nous aimons bien ici parler du mot que nous prenons en main. D'ailleurs, c'est une bonne occasion puisque le Festival du mot, organisé par Marc Le Carpentier, est proposé aujourd'hui, ces jours-ci, à la Charité sur Loire. Mais je me rappelle les quatre vers dans le Cid de Corneille. Vous savez, le récit de Rodrigue, qui a cette formule: ô combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres, où chacun, seul témoin des grands coups qu'il donnait, ne pouvait discerner où le sort inclinait. Combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres? Alors, c'est étrange pour nous, parce que s'ils ont été célèbres, on devrait les connaître. Et puis, il y a une opposition avec le terme de gloire.
Oui, parce que la gloire, c'est justement ce qui s'inscrit dans la durée, ce qui va rester dans la mémoire des hommes. Et ça, la gloire est quelque chose qui est absolument ancien dans la culture occidentale. Elle remonte évidemment au genre même de l'épopée. La gloire, c'est le souvenir justement des grands exploits et des grands hommes. Alors, c'est quelque chose qui continue à exister aujourd'hui. On a eu récemment une cérémonie au Panthéon. Donc, on voit bien que le Panthéon continue et la gloire continue. Quelque chose qui fonctionne de manière importante. Mais il y a cette idée que la gloire, ce sont justement, ou la conception très ancienne du mot célèbre, c'est justement ce qui va rester dans la mémoire des hommes comme des hauts faits.
Et célèbres, d'exploits célèbres, ouais, dans l'obscurité, ouais, dans le cas du Cid, ce sont des exploits admirables, mais qui ne sont pas notoires.
Exactement, qui n'accèdent pas à la gloire. Ce qui va être nouveau, là on est au XVIIe siècle, ce qui va être nouveau au XVIIIe siècle, c'est d'une part l'apparition non plus de l'adjectif célèbre, mais du nom propre. célébrité, qui est une nouveauté au XVIIIe siècle. Et surtout, pourquoi il apparaît ? Parce qu'il y a un phénomène nouveau qui est justement que la diffusion de la notoriété des actes et des faits par des contemporains, c'est-à-dire que le même acte dont parle Rodrigue au XVIIIe siècle aurait été rapporté dans les journaux, il y aurait eu des gravures qui auraient circulé, donc il n'aurait pas pu rester dans l'anonymat ou l'obscurité.
Furtière, l'auteur du fameux dictionnaire, définit encore la célébrité tout en disant qu'il est, ce mot est vieux, comme la solennité. L'entrée des légats s'est faite avec une grande célébrité.
Oui, c'est ce qu'on appelait aussi la pompe au XVIIe siècle. Et en fait, c'est lié tout simplement, alors là vraiment à l'étymologie, c'était une cérémonie où il y avait beaucoup de gens. Voilà. Cérémonie qui était donc particulièrement importante. Et donc, ce qui va être nouveau, donc quand je dis le mot apparaît au XVIIIe siècle, il apparaît dans son sens moderne, celui qu'on utilise, c'est-à-dire de quelqu'un ou de quelque chose extrêmement connu par les contemporains. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les moralistes, c'est-à-dire ceux qui, justement, au XVIIIe siècle, sont ceux qui commentent les transformations de la société, se mettent à réfléchir, à essayer de définir ce terme de célébrité pour désigner ce phénomène nouveau.
Même s'il n'y a pas d'entrée célébrité dans l'encyclopédie, nous dites-vous.
Non, c'est vrai. Le terme apparaît, mais il n'y a pas d'entrée. On voit bien ce que l'encyclopédie, hein, c'est le début des années 1750. On est à un moment où le terme apparaît. On le trouve très fréquemment dans la correspondance de Voltaire, la correspondance de Rousseau, dans les mêmes moments chez Duclos, qui lui consacre un chapitre. Il n'est pas encore suffisamment attesté pour apparaître dans les dictionnaires et les encyclopédies. Ça, il faudra attendre la fin du siècle.
Chez Montesquieu, il y a encore l'idée que la célébrité serait une réputation certes étendue, mais en somme mal fondée.
Oui, tous ces auteurs du XVIIIe siècle ont sous les yeux un phénomène nouveau, c'est-à-dire que les réputations sont de plus en plus étendues. C'est-à-dire que les réputations ne peuvent plus être contrôlées, gérées à l'intérieur de petits cercles d'interconnaissances que sont les académies, les salons, les familles. Mais certaines personnes, en tout cas, se mettent à être très connues d'un public, sont confrontées justement parce qu'on parle d'eux dans la presse, parce que leur image circule, etc. Et du coup, ils ont besoin de caractériser ces réputations extrêmement étendues. Alors, soit ils vont les caractériser sur le plan moral, effectivement, ou alors ils vont essayer de les caractériser sur un plan qu'aujourd'hui on appellerait sociologique, c'est-à-dire de comprendre ce que c'est que ce public et comment fonctionnent ces formes nouvelles de notoriété. Et c'est là qu'ils vont utiliser le terme nouveau de célébrité.
Mais il y a un aspect aussi de jugement moral. Est-ce qu'on trouve déjà, dès ce XVIIIe siècle qui vous est si cher, Antoine Lilti, est-ce qu'on trouve déjà cette sorte de discours critique, conservateur et en somme très, très convenu désormais, qui consisterait à expliquer que de tout temps il existait des gens très connus, mais que jadis ils devaient leur notoriété à leurs exploits, à leurs talents, à leurs œuvres, alors qu'aujourd'hui ils seraient célèbres seulement en raison de leur exposition médiatique, en raison de leur capacité à faire valoir la superficialité de leur caractère, sans rien avoir en réalité de très profond à faire valoir.
Oui, c'est l'idée de justement de la célébrité comme fugitive, comme arbitraire. Alors, même Aznavour, qui recherche la célébrité, on l'a entendu tout à l'heure, il dit que c'est la faute du public qui n'a rien compris. Mais alors, c'est l'idée que justement le jugement du public est arbitraire, que finalement des gens sont très célèbres pendant un moment parce qu'il y a eu un engouement du public sans que ça repose sur des véritables mérites. Et tout le problème depuis le XVIIIe siècle est de penser le bien fondé du public. Le public s'affirme comme, en tout cas, l'objet d'une certaine suspicion. On oppose au public plutôt le jugement de la postérité, des connaisseurs, des critiques, etc.
Beaucoup croient que cette suspicion est d'aujourd'hui, alors qu'on la trouve en réalité dès ce XVIIIe siècle que vous connaissez si bien. On voit par exemple Louis-Sébastien Mercier, ce fin connaisseur de la vie théâtrale, qui écrit qu'une curiosité épidémique s'empresse à contempler la figure de Voltaire lorsqu'il arrive à Paris dans son grand âge pour se faire admirer dans un théâtre, comme si l'âme d'un écrivain n'était pas encore plus dans ses écrits que sur sa physionomie. C'est encore assez actuel. Après tout, on aurait peut-être pu dire la même chose de Jean-Paul Sartre au moment du Flore et des deux Magots, au moment de la naissance de l'existentialisme comme un phénomène qui dépassait largement la vie de la philosophie ou des lettres après 45.
C'est tout à fait intéressant parce que c'est un épisode, l'épisode auquel vous faites allusion, le moment où Voltaire revient à Paris à la toute fin de sa vie et l'objet d'un engouement extrêmement fort est toujours rapporté dans l'histoire littéraire comme justement le moment de la gloire de Voltaire. Or, quand on regarde ce que disent les contemporains, eux, ils sont frappés justement par la célébrité de Voltaire, ce qui est un peu différent, et notamment cette célébrité, c'est-à-dire d'un engouement pour sa personne, pour son visage, beaucoup plus que pour son œuvre. Louis-Sébastien Mercier, justement, fait la comparaison avec un comédien, qui était vraiment un comédien de la farce, qui s'appelait Jeannot, et qui avait tout autant de succès au même moment, qui était, puisqu'on est à concordance des temps, je vais faire un petit anachronisme, mais c'était vraiment le Danny Boone de l'époque, si vous voulez, quelqu'un qui avait énormément de succès, qui était un comédien comique, mais qui était méprisé par les intellectuels. Il dit, finalement, cette célébrité de Voltaire le met sur le même plan que Jeannot, et le même type de succès. Et donc cette idée que, finalement, la célébrité, à la fois, c'est une marque de succès, mais au fond, c'est un peu aussi une marque d'illégitimité, voire qui suscite le dédain des intellectuels, on la trouve exactement à ce moment-là.
Il faut peut-être évoquer ce qui s'est passé à ce moment-là, mais auparavant, parce que c'est tout à fait topique, auparavant, je vais vous faire écouter un propos de l'ineffable Sacha Guitry, qui évoque sa visite à Ferney, qui est devenu depuis Ferney-Voltaire, et qui évoque aussi le développement des effigies. Ça aussi, c'est un aspect de la célébrité, l'effigie du grand homme, les bustes par Houdon.
Pierre Lost présente Sacha Guitry dans Les 100 merveilles.
Voici un buste de Houdon représentant Monsieur de Voltaire. Nous devons à Houdon 20 bustes admirables, représentant Franklin, Montesquieu, Diderot, Jean-Jacques. Nous lui devons surtout la statue grandeur nature de Voltaire assis dans son fauteuil, en robe de chambre et sans perruque, telle qu'on peut la voir à la Comédie Française, et dont j'ai la joie de posséder la maquette en plâtre, véritable bijou qui ne peut être que français. Nous avons rendez-vous ce soir avec Voltaire. Voltaire. Chapeau bas. Nous lui devons tous quelque chose. Et puisque nous avons déjà son buste sous les yeux, efforçons-nous d'en faire une esquisse fidèle. Il semblerait que ce grand homme diabolique se soit proposé d'être un objet de dégoût, de haine et de mépris, et toutes les ressources de son intelligence, tous les attraits de son génie, il paraît les avoir mis en œuvre pour y parvenir. Il n'y a pas de méchanceté qu'il n'ait écrite, ou qu'il n'ait faite, ou qu'il n'ait dite. J'emploie le mot méchanceté pour parler couramment, pour avoir l'air de partager l'opinion générale. Or, ayant dit méchanceté, ayant dit le dégoût, la haine et le mépris qu'il inspirait à ceux qui le jugeaient jadis et qui le jugent encore inconsidérément, j'ai hâte d'ajouter que cette haine et ce mépris étaient bien peu de choses en regard de son mépris à lui, de son dégoût à lui et de sa haine à lui pour la sottise humaine. Il y a ça quelques années, je me trouvais à Genève et pour la énième fois, je conçus le projet de me rendre au château de Ferney que Voltaire habita pendant quelques années. Conduisant ma voiture, je m'étais fait des illusions et m'étais égaré en sortant de Genève. Dès lors, je me suis mis à demander mon chemin aux gens que je croisais. Je demandais « Ferney ?» On me répondait « Ferney ?»« Oui, où est la maison de Voltaire ?»« Ah, alors dites Ferney-Voltaire, c'est la deuxième route à droite. » Un peu plus loin, je demandais « Ferney-Voltaire, la première à gauche. » Bientôt, je me contentais de demander « Voltaire ?» Et c'est alors que me fut donnée une réponse inouïe. Je demandais Voltaire, et quelqu'un me répondit, un peu au-dessus de l'église. Voltaire au-dessus de l'église, avouait que c'était inespéré.
Sacha Guitry s'exprimait à la radio le 1er juillet 1954. Lui-même, Antoine Lilti, n'a pas détesté de jouer avec ce qu'on peut appeler les ressorts divers de la notoriété, de la publicité, de la célébrité.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a une petite part d'autoportrait dans le discours qui tient, notamment sur le mépris que l'homme célèbre a pour ceux qui le méprisent en retour. Donc, je crois que là, il parlait un peu de lui. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette insistance, justement, sur la circulation des images. Alors là, des bustes, mais aussi des gravures, parce que souvent, on pense que la célébrité, justement, apparaît à partir du moment où on a la photographie, le cinéma, c'est-à-dire les moyens modernes de représentation de l'image d'un individu. Mais dès le XVIIIe siècle, on a une véritable transformation de la culture visuelle, c'est-à-dire la circulation dans l'espace public des grandes villes, de bustes, mais aussi de portraits, de gravures, d'images qui coûtent très peu cher, qui sont reproduites assez massivement.
C'est l'apparition des estampes, des eaux-fortes qui remplacent les gravures sur bois, qui étaient évidemment de qualité bien plus médiocre.
Elles sont de meilleure qualité, surtout elles sont reproduites en plus grand nombre. Elles sont surtout insérées dans cette nouvelle économie du livre qui se développe au XVIIIe siècle. Alors par exemple, Voltaire, c'est très intéressant parce que justement, à, non seulement il y a eu des bustes, il y a eu des tas de portraits, mais par exemple, Jean Hubert avait fait toute une série de tableaux représentant Voltaire à Ferney, justement, dans son intimité, dans sa vie quotidienne. C'était la vie intime de l'homme le plus célèbre de l'Europe, comme disait Grimm.
Déjà, et la vie intime, c'était voilà. Déjà cette ambivalence entre vie publique et vie privée. On le montre en train de remettre ses choses.
Il y a un des tableaux, notamment, qui avait été gravé, qui a énormément circulé, aussi bien en France qu'en Angleterre, où on le voit en train de s'habiller. Le matin, il sort du lit, il est en train d'enfiler son pantalon dans une position un peu déséquilibrée. Je reproduis le tableau dans le livre. Et ce qui est très intéressant, c'est que Voltaire était quand même très ambivalent, parce qu'il était... Voltaire était très content de son succès public et de sa célébrité, mais là, il trouvait quand même que Jean Hubert était allé un peu loin et l'avait un peu ridiculisé en le montrant dans cette situation. Hubert, qui comme Houdon était très conscient lui-même des effets de la célébrité et de son propre rôle en tant que fabricant de l'image publique des hommes célèbres, Jean Hubert lui répond « Je sais exactement la dose de ridicule qui est nécessaire à votre célébrité ». Et là, on a quelque chose d'intéressant parce que justement, à la différence de la gloire où le grand homme doit être entièrement positif, l'homme célèbre, un peu de ridicule ne nuit pas parce que justement, ce ridicule permet des formes d'identification avec le public.
C'est ce jeu permanent qui combine le désir de se sentir proche de celui que l'on célèbre et en même temps d'en être suffisamment différent pour avoir des raisons de s'intéresser à ce qui lui arrive.
Exactement. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal de la presse People aujourd'hui pour s'apercevoir qu'une grande partie des photos ou des articles consiste à se moquer un peu des gens célèbres, à les montrer non seulement effectivement dans des positions beaux sur la plage, mais aussi un peu trop gros ou mal habillés, etc. Parce que cette manière de jouer sur à la fois ce sont des gens célèbres, ils sont donc très différents et en même temps ils sont exactement comme nous, c'est un des ressorts de la célébrité, ça joue déjà avec Voltaire.
Et Voltaire, en même temps, a avec cette célébrité des rapports de coquetterie qui se retrouvent chez certains écrivains d'aujourd'hui, me semble-t-il, puisque quand on publie un fourre-queuille de lettres indignement falsifiées, dit-il sous son nom, il dit « Que voulez-vous ? C'est un tribut qu'il faut que je paye à une malheureuse célébrité qu'il serait bien doux de changer contre une obscurité tranquille. » Est-ce qu'il est entièrement sincère en disant ça? On peut se permettre, sans excès d'irrespect, d'en douter un peu, non?
Oui, on peut en douter, parce que de toute façon, avec Voltaire, on ne sait jamais. C'est quand même le spécialiste des écrans de fumée. Il dit toujours ce qui l'arrange, bon, il le dit. Mais en même temps, il y a une grande part de coquetterie. Et il y a quand même autre chose, c'est-à-dire que tous ces écrivains, notamment, qui font cette expérience nouvelle de la célébrité, du fait que leur nom, leur image deviennent, circulent très largement, bien au-delà des sphères du monde littéraire, par exemple, découvrent aussi que la célébrité traîne avec elle un certain nombre de contraintes qui ne sont pas toujours agréables. Au même moment, Nicolas Chamfort, donc le grand moraliste, il disait c'est le châtiment du mérite.
Et la punition du talent.
Voilà, le châtiment du mérite et la punition du talent. Donc, vous voyez, il y avait quand même cette idée que, certes, il y a un peu de coquetterie chez Voltaire, mais il y a cette conscience que finalement, la célébrité n'est pas toujours quelque chose d'aussi agréable qu'on ne le pense tant qu'on n'est pas encore célèbre.
Cela renvoie à un propos récent d'Isabelle Adjani qui disait « Le luxe, la liberté aujourd'hui, c'est l'anonymat ». Alors ça fait un peu sourire, évidemment, dans le cas des actrices, des comédiennes d'aujourd'hui qui cherchent, comme le cherchait Aznavour dans sa chanson, qui cherchent la notoriété, le succès et peut-être la célébrité, mais on trouve cette ambivalence très clairement et on la trouve dès le XVIIIe siècle.
Ça fait toujours sourire, mais d'abord, il y a une réalité, c'est qu'effectivement, par exemple, le nombre depuis très longtemps, le nombre de stars, de vedettes dépressives, suicidaires, prouve bien qu'il y a quand même une pression psychologique très forte qui s'exerce sur les gens célèbres. Et alors, le cas qui est vraiment fascinant au XVIIIe siècle, c'est le cas de Jean-Jacques Rousseau, parce que bien avant Isabelle Adjani, bien avant James Dean ou les stars suicidaires ou dépressives du XXe siècle, Jean-Jacques Rousseau a vécu lui-même sa célébrité. Je rappelle que ça a été sans doute l'écrivain, peut-être plus que Voltaire encore, l'écrivain le plus célèbre du XVIIIe siècle, celui qui a suscité une adhésion extrêmement forte avec des véritables fans. Et il a vécu cette célébrité comme une épreuve.
Comme une malédiction.
Oui, une véritable malédiction, au point d'ailleurs qu'il a passé toute une partie de sa vie à essayer de rompre progressivement, se cacher, c'est ce qui termine en écrivant Les rêveries du promeneur solitaire, avec l'idée qu'il est seul sur la terre. C'est-à-dire que cet écrivain, qui était l'écrivain le plus aimé, le plus admiré, le plus connu de son époque, fini finit par se persuader qu'il est détesté de tout le monde.
Oui, il écrit « Plus seul au milieu de Paris que Robinson sur ce Nil » et séquestré du commerce des hommes par la foule même empressée à l'entourer pour empêcher qu'il ne se lie avec personne. C'était un tempérament, il faut le dire, assez chagrin.
Se développe progressivement ce qu'on appelait une véritable paranoïa, c'est-à-dire qu'il est persuadé non seulement que ses ennemis complotent contre lui, mais que finalement le public entier lui en veut. Alors ce qui est très frappant, c'est que par exemple, il a de véritables admirateurs, très sincères, qui viennent pour le voir, comme font les fans, qui lui écrivent pour lui dire « on voudrait vous rencontrer ».
La visite au grand écrivain, voilà. C'est un genre qu'on retrouve au 19e siècle aussi.
Oui, c'est un genre qui est nouveau à ce moment-là, c'est-à-dire des gens qui justement ne sont pas, qui sont des anonymes, et qui se sentent autorisés justement par cette présence publique de l'écrivain, se sentent autorisés à lui écrire, à essayer de le rencontrer. Il déteste ça, il leur répond par exemple, si vous voulez voir une bête sauvage, allez voir le rhinocéros à la foire, parce qu'il y a cette idée d'être, que la célébrité le transforme en une espèce d'objet de curiosité, de spectacle, et l'empêche d'être sincère, d'être authentique, d'être véritablement lui-même.
Ce n'est pas entièrement faux, d'ailleurs, puisque Grimm, dans sa fameuse correspondance littéraire, au moment où Rousseau revient d'Angleterre et où on l'accueille avec une curiosité quasiment universelle, il attire une foule de badauds qui sont avides de le voir. Grimm écrit qu'on demandait à cette populace ce qu'elle faisait là, elle répondait que c'était pour voir Jean-Jacques. On lui demandait ce que c'était que Jean-Jacques, elle répondait qu'elle n'en savait rien, mais qu'il allait passer.
Alors vous voyez, il y a ces deux éléments, il y a effectivement cet aspect un peu tautologique de la célébrité, les gens veulent voir l'homme célèbre sans forcément avoir lu ses livres, sans forcément le connaître, juste parce qu'il est célèbre, donc là on a quelque chose qui nous paraît à nous extrêmement moderne, et puis ce qu'il faut voir aussi c'est qu'évidemment chez Grimm, dans cette citation, il y a un aspect extrêmement ironique, moqueur, la populace, et donc évidemment la célébrité c'est le fait non pas du public ou du peuple, dans une version positive, mais de la populace, donc d'une disqualification, justement, de ceux qui ne sont pas capables de juger sereinement des mérites respectifs, des mérites réels d'un écrivain. Donc ce discours aussi de disqualification de la célébrité, que vous évoquiez tout à l'heure, on le trouve ici dans ce commentaire.
Est-ce que vous verriez des rebonds, des reflets aujourd'hui dans notre contemporanéité à propos de tel ou tel autre écrivain ?
Il y a des écrivains qui, justement, ont cherché à fuir la célébrité, notamment en essayant de rompre avec les modèles de la médiatique. Le plus connu, c'est Thomas Pynchon aux États-Unis, dont on n'a aucune image, aucune photo. Mais en France, ce qui est assez frappant dans le cas français, c'est des écrivains qui jouent énormément de la célébrité, qui l'utilisent comme un instrument au point de se construire un personnage public, tout en se plaignant de ses effets. L'exemple de Michel Houellebecq, par exemple, actuellement, est extrêmement frappant. C'est pas quelqu'un, à la différence de Rousseau, on peut pas dire qu'il rompe avec les effets de la célébrité. Au contraire, il en joue, mais en même temps, il se plaint de ses effets de starification de l'écrivain.
C'est notre Jean-Jacques d'aujourd'hui, en somme.
Il y a des éléments de parallèle, y compris par ce goût de nourrir sa célébrité par le scandale, par la provocation, en tenant des discours dont il sait qu'ils vont choquer, et aussi cette façon de construire par la fiction son propre personnage.
Un des signes, un des critères peut-être, est chez certains le refus de paraître naguère ou jadis dans les émissions de Pivot, qui au contraire ont porté la notoriété d'un grand nombre d'écrivains ou de personnages de la vie culturelle. Certains ont refusé, Claude Simon refusait, on peut en citer d'autres.
Les écrivains ou les artistes, arrivés à un certain moment, sont pris dans cette tension, cette contradiction, c'est-à-dire que la célébrité peut nourrir la réception de leur œuvre, mais elle peut aussi faire écran, il y a toujours ce risque. Et surtout, il y a ce risque que les sollicitations de la célébrité les empêchent ensuite de travailler. Et Goethe disait déjà ça au début du 19e siècle, il disait... qu'après Werther, il ne pouvait plus écrire parce qu'il était tout le temps sollicité par des admirateurs, par des fans. Et cette phrase très belle, il disait quand vous avez fait une fois une chose qui a plu au monde, il s'ingénie à vous empêcher de le refaire une seconde fois.
Alors je voudrais maintenant que nous en venions à un autre monde qui a joué à partir du XVIIIe siècle avec la célébrité. C'est la société du spectacle, qui n'est d'ailleurs pas complètement... éloigné de celle que nous venons d'évoquer, mais plus précisément l'apparition des vedettes ou des stars. Vous évoquiez Janot tout à l'heure, qui avait autant de statuettes sur les cheminées que Voltaire. On voit surgir au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle des personnages, des comédiens, des danseurs, des chanteurs qui atteignent à une notoriété, à une célébrité universelle, avec les conséquences financières d'ailleurs que ça comporte.
Oui, exactement. Alors, d'abord parce que on a une transformation. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une transformation au XVIIIe siècle de l'économie des spectacles, puisque jusque-là, le théâtre ou l'opéra était lié à la société de cour, et donc était quand même largement réservé à une élite et à l'intérieur de fonctionnements qui étaient ceux de la société de cour. Se développent d'abord à Londres, puis à Paris, puis à Vienne et dans d'autres villes européennes, des théâtres privés qui fonctionnent donc sur un modèle économique différent et qui suscitent, alimentent des phénomènes de production de vedettes, notamment avec un véritable marché des chanteurs, des acteurs qui se met en place. Par exemple, un des plus célèbres danseurs de la fin du XVIIIe siècle, Augustin Vestris, est embauché par un théâtre de Londres qui le fait venir en payant assez cher. Et alors, c'est un succès absolument considérable à Londres. Il y a quasiment une émeute le soir de la première parce que tout le monde veut accéder au théâtre, les gens n'ont pas assez de place. Et une polémique dans les journaux anglais sur le salaire de Vestris, avec l'idée que finalement il est trop payé et que c'est pas raisonnable qu'un danseur gagne en une soirée ce que gagne un honnête ouvrier dans toute sa vie.
Il s'agit déjà de l'annonce des débats d'aujourd'hui sur le salaire des footballeurs ou même éventuellement d'un certain nombre de grands patrons.
La question que les économistes maintenant ont appelée, vraiment l'économie de la célébrité. Ils ont réfléchi à pourquoi une personne, parce qu'elle est célèbre, peut gagner de telles sommes, y compris le scandale moral que ça suscite.
C'est le temps des très célèbres acteurs, comédiens. Je pense à Talma, qui a été un comédien de très grande notoriété. C'était l'acteur favori de Napoléon Ier. Je pense aussi à Rachel, un peu plus tard, qui a interprété les grands rôles de Corneille et de Racine et a redonné d'ailleurs un élan nouveau à la célébrité de ces pièces de théâtre de l'époque classique. Écoutez cet extrait d'une lettre qu'elle adressait à des amis en mai 1841, qui est ici lu par Claude Winter sur France Culture le 26 février 1971. Il faut préciser que Rachel est en train de commencer une tournée qui a eu de plus en plus de succès à Londres. C'est l'époque où les Anglais pouvaient assister à des pièces en français en grand nombre.
Mes chers amis, je vous vois faisant la moue à ma lettre un peu en retard, mais j'aurais voulu vous voir avec moi à Londres pour juger vous-même s'il me restait une seconde pour me reposer. Dès mon arrivée, j'ai vite porté mes lettres de recommandation et j'ai été accueillie de la manière la plus flatteuse par chacun. Puis ils m'ont rendu leur visite et alors ça n'a pas cessé jusqu'au moment où je vous écris. Et il est 7h et à Londres, on ne fait plus de visite à cette heure-là, heureusement pour moi. Me voilà donc installée à Londres. J'ai donné deux représentations qui sont Andromaque et Les Horaces. J'ai fait ma première apparition dans le rôle d'Hermione et je vous assure que ma frayeur était immense, frayeur qui s'est heureusement évanouie dès ma seconde scène. Mon entourage n'a été que pour me mieux faire ressortir. Ma troupe seule a eu quelques désagréments. Je ne puis vraiment, avec la meilleure volonté que j'ai de vous bien dépeindre mon succès, vous en donner une idée. Lisez les journaux anglais, ça vous donnera un aperçu. Je ne voudrais presque pas vous dire même ce que je vous dis, mais n'êtes-vous pas ce que j'aime le mieux au monde? Alors je puis me permettre ce que ma modestie de jeune artiste ne me permettrait pas avec d'autres personnes. Les Anglais ont très bien compris et senti les plus petites nuances. Il est vrai de dire aussi que la crème de la société anglaise assistait à cette première représentation. La salle était éblouissante de toilettes et de jolies femmes. Les lionnes et les lions m'ont fait une entrée des plus brillantes. Aussi disent-ils n'avoir jamais vu en Angleterre un succès pareil au mien. La seconde pièce, qui était Horace, a achevé de me confirmer que j'aurais des saisons heureuses à passer chez les Anglais. On m'a rappelé, les chapeaux, les mouchoirs des dames s'agitaient en dehors des loges, les bouquets, les applaudissements ont terminé cette soirée qui m'a rendue malade par les émotions diverses qu'elle m'a fait éprouver. Je fais mon troisième début vendredi prochain dans le rôle de Roxane et il redemande déjà les deux premières tragédies que j'ai jouées. Un engagement des plus brillants vient de m'être offert pour la saison prochaine. Je n'ai point encore signé parce qu'il y en a deux qui se disputent ma proie. Les soirées, les dîners ne tarissent pas. J'en refuse beaucoup. Mais encore y a-t-il des exceptions nécessaires.
Ce qui frappe d'abord Antoine Lilti, c'est que c'est le temps où s'élargit la notoriété des comédiens qui devient quasiment universelle, en tout cas qui concerne l'ensemble du monde occidental.
C'est le moment effectivement où les vedettes se mettent à faire des tournées dans toute l'Europe, dans toutes les grandes villes européennes. C'est vrai des comédiens, c'est vrai des musiciens, mais même de part et d'autre de l'Atlantique. On voit par exemple, c'est le moment de développement de tournées d'artistes aux États-Unis avec véritablement, et là on voit se mettre en place, et c'est déjà en filigrane ici dans la description de Rachel, les méthodes du marketing culturel où on organise avec des impresarios et des entrepreneurs de spectacles qui organisent le succès des acteurs, les récits dans la presse.
Sarah Bernhardt, à la fin du siècle, en effet, fait des tournées triomphales, y compris en Amérique latine.
Exactement, c'est l'héritière directe de Rachel de ce point de vue-là.
Et c'est organisé par des gens dont c'est le métier, un peu comme on promène Buffalo Bill d'ailleurs au même moment.
À la fin du siècle, non, c'est vraiment, c'est pris dans une culture du spectacle. Et celui qui va dans les années, par exemple, 1850 en Amérique organiser ses tournées d'acteurs et de chanteurs européens, c'est Barnum, qui sera justement l'entrepreneur de ces grands spectacles de la fin du siècle.
Avec toujours une ambivalence de la célébrité par rapport à l'ordre social. Ces actrices en particulier sont extrêmement admirées, elles sont transformées en une sorte d'objet de désir qu'on offre au public. Et en même temps, la proximité avec la figure de la courtisane est assez évidente.
Oui, ça fait partie assez largement du succès des vedettes. C'est vrai aussi d'ailleurs du côté masculin, hein, parce qu'on a toujours tendance à penser que cette érotisation des célébrités concerne les actrices, les danseuses. Alors évidemment, c'est le plus frappant, mais ça concerne aussi les acteurs, les chanteurs, et ça on le voit bien jusqu'aux stars contemporaines. D'ailleurs, ça concerne aussi des écrivains, exactement quelques années avant Rachel, Lord Byron suscite des réactions d'érotisation extrêmement fortes chez beaucoup de ses admiratrices.
Ce Lord Byron que Stendhal rêvait de rencontrer en disant « je me serais mis à genoux et je me serais mis à pleurer de pouvoir le rencontrer ». On trouve cette ambivalence aussi du côté d'un personnage très, très topique qui est Farinelli, le castrat, oui, dont un film récent nous a restitué la force. Je pense au film de Gérard Corbiot de 94 avec Stefano Dionisi dans le rôle de Farinelli. Farinelli qui était donc un castrat à qui on avait prêté des liaisons avec les plus fameuses courtisanes londoniennes au moment de son passage. Là, écoutez cet extrait. Au moment où il triomphe, et c'est son frère qui se réjouit de cela en italien.
Carlo è un trionfo, siamo i più grandi, Carlo. Se il padre potesse vedere, se potesse vedere tutto questo, se non te l'ho sognato, Carlo, l'ho sognato, era là, era qui, in questo teatro.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
C'est une bonne restitution de cette gloire immense du castrat.
Oui, on a du mal à imaginer ce qu'était le succès des castrats dans l'Europe du XVIIIe siècle. Les castrats qui venaient d'Italie, il y avait des impresarios qui allaient les chercher en Italie pour les ramener à Londres, puis en France, où ils faisaient ensuite les tournées.
Ils étaient opérés à quel âge ?
À très jeune, très très jeune, mais c'était interdit en réalité. Donc il y avait cet aspect un peu scandaleux. Il y avait le double aspect de performance vocale extraordinaire et des faits à la fois troubles, scandaleux, un peu illicites de cette pratique, avec toutes les rumeurs qui circulaient sur la sexualité des castrats, sur l'extraordinaire séduction qu'ils exerçaient aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Et donc cet aspect de trouble introduit dans le genre, on dirait aujourd'hui, mais surtout de trouble introduit dans l'ordre social et dans l'ordre moral. Donc ça, on a énormément de textes de l'époque qui dénoncent cette façon dont le succès, la célébrité des castrats perturbent l'ordre social. Et puis avec Farinelli, on voit bien qu'on est dans un moment de transition, puisque lui-même est partagé entre ce nouveau monde qui est celui des spectacles publics, de ce marché en fait des vedettes, et puis le monde ancien mais plus rassurant qui est celui des cours, puisque Farinelli, après avoir goûté à la fois au succès mais aussi au danger de la célébrité de l'exposition publique et notamment des critiques, va aller à la cour de Madrid auprès de Philippe V et où il va faire toute la fin de sa vie et de sa carrière, cette fois soustrait à la curiosité du public et dans une situation de musicien courtisan.
Nous parlions des écrivains, c'est le temps par exemple où peu de mois après la mort du grand Buffon, on publie un livre à succès qui s'appelle « La vie privée de Buffon ».
Oui, c'est l'année même, juste après sa mort, son ancien secrétaire se met à raconter toute une série d'anecdotes. D'emblée, il dit « Je ne raconterai rien sur le travail ou sur de Buffon, mais je raconterai tout sur ses amours, sur ses relations avec sa famille, avec ses domestiques, etc. » Et ça avait beaucoup de succès parce que les gens se passionnent non seulement pour et au fait des gens célèbres, mais aussi pour leur vie privée.
Comment c'est, il n'y a pas de grand homme, dit-on, pour son valet de chambre. C'est le début d'une littérature qui va proliférer des souvenirs, en effet, des majordomes, de ceux qui sont au plus près des grands hommes. Ce n'est pas peut-être la littérature la moins fétide que l'on peut rencontrer.
Non, mais par exemple, sur Buffon, en fait, c'est un véritable acte d'admiration. Donc, c'est plutôt quelque chose d'ambivalent entre... c'est un livre écrit pour les fans ou pour les admirateurs. C'est pas une dénonciation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le genre même, effectivement, de vie privée, le syntagme même, la formule « vie privée de », devient un genre éditorial en soi à la fin du XVIIIe siècle.
Ce XVIIIe a connu aussi... Le développement des biographies de criminels, on trouve toujours cette attitude un peu trouble, fascination, rejet, avec Cartouche par exemple, ou bien une génération plus tard avec Mandrin.
Cartouche par exemple, au moment même où il est arrêté par la police, eh bien à ce moment-là, il y a une troupe qui joue sa vie à la Comédie Française. Il y a des images qui circulent pour les gens de la bonne société, essayer d'aller voir Cartouche en prison, parce que de l'avoir vu en vrai, ce personnage dont tout le monde parlait, c'était un objectif.
1721, on retrouve exactement la même chose avec Lassner au 19e siècle, avec Landru, le même type, ou avec Mesrine également.
Voilà, exactement. Et Mesrine, c'est qu'il y avait une tentative de film, de biopic de Mesrine, qui a été annulée au moment où Mesrine s'est enfui. Parce qu'ils ont commencé à avoir un peu peur. Et en fait, on a exactement la même chose, c'est-à-dire mise en fiction d'un criminel célèbre qui fascine le public et qui, en même temps, évidemment, sa célébrité repose sur ce mélange de fascination, mais aussi d'inquiétude, et d'inquiétude parfois très réelle.
On les installe jusqu'au cœur de ces musées de cire qui commencent d'apparaître, bien avant les marionnettes des bébés de chaud ou des guignols.
Oui, alors effectivement, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a les musées de cire, puisque l'ancêtre de Madame Tussaud, c'est le musée de cire de Curtius à la fin du XVIIIe siècle. Mais on a aussi effectivement des spectacles de marionnettes, notamment à Londres. Il y avait un comédien, c'est Foote, qui avait mis en place dans les années 1750-60 des marionnettes, des grandes marionnettes. Il faisait des parodies ou des caricatures, soit d'artistes, soit de comédiens, ou alors de personnages de la bonne société dont la vie occupait les journaux londoniens de l'époque.
On peut noter, j'ai lu ce que vous en disiez, Antoine Lilti, on peut noter qu'un grand comédien comme Garrick, par exemple, paye ceux qui produisent des marionnettes à grand succès à Londres, pour obtenir qu'il ne soit pas lui-même montré de cette façon dans un théâtre avec des ficelles.
Ce qui est très ambivalent, c'est que Garrick, par ailleurs, a été énormément utilisé, justement, cette culture, nouvelle culture visuelle de la célébrité. On a plus d'une centaine de portraits de Garrick de son vivant. Donc c'est au point qu'on a pu dire que c'était une des premières figures médiatiques de l'histoire. Et en même temps, évidemment, une fois que son portrait et son image prolifèrent dans l'espace public, il y a le risque de passer du côté de la caricature. Et donc il y a ce besoin, du coup, d'essayer effectivement de protéger son image et de protéger sa vie privée à une époque où on n'a pas du tout de droit à la vie privée, de droit à l'image. Tout ça va s'inventer beaucoup plus tardivement à partir de la fin du 19e siècle.
Alors je voudrais maintenant, au cœur de cette émission consacrée à l'émergence de la célébrité, beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit souvent, je voudrais que nous en venions à ce qu'on peut appeler les noces du pouvoir politique et de la célébrité, en revenant peut-être à Marie-Antoinette que j'évoquais en commençant à propos du film de Sofia Coppola. Mais on peut aussi parler de Mirabeau. Vous faites un rapprochement à bon escient entre Marie-Antoinette et Mirabeau pour marquer le contraste. Marie-Antoinette ne sait pas se saisir d'une modernité de la célébrité alors que Mirabeau en joue admirablement.
Oui, d'ailleurs, il lui reprochait de ne pas avoir suffisamment su saisir cette célébrité. Elle l'a connue, c'est-à-dire que maintenant, on pense toujours à Marie-Antoinette, détestée par au moment de la Révolution. C'est vrai, mais pendant toute la première partie de son règne, Marie-Antoinette avait connu une forme de célébrité qui était très différente de celle des souverains du passé, parce que justement, elle était une figure publique, elle se montrait au théâtre à Paris, elle était une des reines de la mode parisienne. Donc, il y avait véritablement ce succès populaire de Marie-Antoinette, qu'elle a totalement perdu dans les dernières années avant la Révolution et pendant la Révolution, justement parce que, au fond, elle était beaucoup trop ambivalente par rapport à l'idée même de jouer de cette image publique pour lui donner une légitimité politique.
Et alors, du coup, elle crée une espèce d'appétit malsain pour une connaissance de sa sexualité, comme celle du roi, avec toutes les rumeurs qui commencent de circuler. Parce que, nous l'avons pas encore dit, mais les rumeurs font partie intrinsèque du développement de la célébrité des grands personnages.
Ben oui, puisqu'à partir du moment où tout le monde connaît leur nom et leur image, ça suscite la curiosité et donc le désir de parler, de raconter, c'est toujours le cas aujourd'hui, faire circuler des rumeurs sur les gens célèbres, c'est un élément extrêmement important. Il y a une circulation clandestine, notamment de pamphlets, de gravures, etc., qui peuvent viser les gens célèbres.
La comparaison avec Lady Di, avec Diana, vous paraît bienvenue, puisqu'elle a été proposée par Francis Ford Coppola.
Oui, au fond, d'ailleurs, c'est d'une certaine manière sous-jacent dans le film de Sofia Coppola. Et elle est, comme tout anachronisme, elle est à la fois un peu excessive, parce qu'évidemment, la situation n'est pas la même, au sens où Lady Di vit dans un monde où la célébrité est un fait structurant, alors que Marie-Antoinette est projetée dans un monde où la célébrité est en train d'apparaître. Donc évidemment, la situation est différente, mais néanmoins, je crois que ça capte quelque chose de très juste, c'est la façon justement dont l'exercice du pouvoir est transformé à la fin du 18e et au début du 19e par ces deux phénomènes concomitants, et il faut bien penser leur concomitance, que sont d'une part le développement des exigences démocratiques, ça va être avec la Révolution française, c'est-à-dire l'apparition du peuple ou du public comme acteur politique, qui redéfinit la souveraineté, et de l'autre côté, le développement des médias, d'un véritable espace lié à la presse, lié à la circulation des images, qui, là aussi, permet à un certain nombre d'individus, vous avez cité Mirabeau, de construire une légitimité politique sur leur popularité. Et le terme même de popularité, qui est à l'intersection de ces deux évolutions, devient un des nouveaux mystères de la politique au moment de la Révolution française.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Mirabeau? Comment a-t-il capté justement cette ère du temps, contrairement à Marie-Antoinette qu'il avait essayé de conseiller?
Ce qui est extraordinaire avec Mirabeau, c'est la transformation d'une célébrité qui antérieure à la Révolution et qui était une célébrité à la fois scandaleuse et littéraire. Que Mirabeau était d'abord connu comme un libertin, un noble déclassé, un personnage un peu sulfureux.
Un folliculaire sans grand succès.
Oui, un pamphlétaire, mais aussi surtout quelqu'un qui avait fait de la prison, qui avait eu un procès à la fois extrêmement, on dirait aujourd'hui, très médiatisé, qui avait fait beaucoup de bruit, en tout cas à l'époque. Et donc, c'était une figure assez connue et qui a réinvesti cette célébrité dans la politique en se faisant élire aux États généraux, puis évidemment en devenant le grand orateur des débuts de la Révolution. Mais ce qu'il réinvestit, c'est à la fois grande capacité, évidemment, ce que n'a pas Marie-Antoinette, à comprendre ce principe nouveau de la souveraineté populaire.
Au moment de l'efflorescence d'une presse provisoirement libre.
Voilà. Et puis surtout de cet espace parlementaire. Chacun connaît ces grandes répliques des débuts de la Révolution.
Une porosité, d'ailleurs, entre le monde du théâtre et le monde des assemblées qui frappe à ce moment-là.
Voilà. Et donc l'autre aspect, c'est cette manière de réinvestir aussi une capacité à capter l'attention et notamment à jouer de l'assemblée comme d'un théâtre. Personne lui diront qu'il aurait dû être un comédien, qu'il aurait dû faire une carrière de théâtre, parce qu'il avait une capacité comme ça à fasciner son public. Et donc cette rencontre entre les mécanismes qui sont ceux de la célébrité, de la visibilité publique, et ceux de cette capacité à comprendre la transformation de la légitimité démocratique, construisent la popularité de Mirabeau. Une popularité qui est vraiment extraordinaire à son époque.
D'ailleurs, quand il meurt soudainement, ses funérailles provoquent des rassemblements de foule qui impressionnent beaucoup les contemporains. C'est, Il y aura beaucoup de funérailles, un grand spectacle et un grand cortège au XIXe siècle. Il s'agit probablement du premier événement de ce type. D'ailleurs, on le transporte au Panthéon. Oui. Nous évoquons cela cette semaine. Provisoirement, parce qu'on va l'en faire ressortir. Je ne pense pas que ce sera le cas des quatre personnalités que le président Hollande vient de conduire au Panthéon.
Oui, il est le premier, en fait. C'est le premier à y aller. Effectivement, il en ressortira assez rapidement. Mais beaucoup de funérailles, comme vous le savez, de la fin du XIXe siècle, vont prendre justement les funérailles de Mirabeau en modèle, en exemple. Les funérailles de Gambetta, à la fin du XIXe siècle, vont prendre comme référence les funérailles de Mirabeau. C'est le rapport, effectivement, à ce moment de basculement de la célébrité en gloire nationale.
Alors, bien sûr, on ne peut pas faire l'économie d'une évocation de l'homme dont la célébrité a été maximale au XIXe siècle, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte, l'empereur des Français. Et on a souvent évoqué la manière dont ce fut peut-être son dernier exploit. À Sainte-Hélène, il a su organiser sa légende, qui a d'ailleurs beaucoup profité ensuite à son neveu, ou probable neveu, Napoléon III. Geneviève Tabouis, qui était une journaliste connue sous la Troisième et la Quatrième République, encore au début de la Cinquième, Geneviève Tabouis, qui disait « Attendez-vous à savoir » dans ses chroniques de Radio Luxembourg. « Mais attendez-vous à savoir, Antoine Lilti, ce qu'elle va nous dire sur le mémorial de Sainte-Hélène, de Lascaz, qui a été le grand porteur de cette diffusion de la légende napoléonienne. » C'est un extrait de Causerie diffusé le 9 juillet 1963.
Lascaz explique « L'univers est plein de la gloire de l'empereur, de ses actes, de ses monuments. » Mais personne ne connaît les nuances véritables de son caractère, ses qualités privées, les dispositions naturelles de son âme. Or, c'est ce grand vide que j'entreprends de remplir ici. Et cela, avec un avantage peut-être unique dans l'histoire, j'ai recueilli, consigné jour par jour tout ce que j'ai vu de Napoléon, tout ce que je lui ai entendu dire durant les 18 mois que j'ai été auprès de sa personne.
Mon cher, ces mémoires seront aussi connues que tous ceux qui les ont devancées. Vous vivrez autant que tous leurs auteurs. On ne pourra jamais s'arrêter sur nos grands événements, écrire sur ma personne, sans avoir recours à vous. On dira, après tout, il devait bien le savoir. C'était son conseiller d'État, son chambellan, son compagnon fidèle.
Au lecteur d'aujourd'hui, Lascaz apparaît dans le mémorial comme un magnifique reporter auquel rien n'échappe. Son sens critique, son goût de la dialectique font aussi de lui un redoutable polémiste. Parmi tous les collaborateurs civils ou militaires de Napoléon qui écriront leurs propres souvenirs ou mémoires, seul Lascaz a su fixer dans leur rayonnement inaltérable les aspects immortels de Napoléon, qui à Sainte-Hélène, raconte Lascaz, s'écriait le jeudi 30 novembre 1815.
Cependant, notre situation peut avoir des attraits. L'univers nous contemple. Nous demeurons les martyrs d'une cause immortelle. Des milliers d'hommes nous pleurent. La patrie soupire et la gloire est en deuil. Nous luttons ici contre l'oppression des dieux. Et les vœux des nations sont avec nous. Les malheurs ont aussi leur héroïsme et leur gloire. L'adversité manquait à ma carrière.
Le lecteur est ici Jean Deschamps. On trouve bien à propos de Napoléon, de façon maximale, cette rencontre qui est au centre de cette célébrité que nous étudions ce matin, avec ce mélange d'accès à une familiarité et de respect de la différence fondée sur une certaine grandeur. C'est le sociologue Tarte qui disait que l'individu se découvre singulier dans le moment même où il se fond dans un public. C'est assez ça, non, Antoine Lilti?
Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est très intéressant que Geneviève Tabouis ici insiste beaucoup sur les aspects les plus spectaculaires de la gloire de Napoléon, c'est-à-dire les traits immortels, sa gloire future. Et c'est souvent sous cet angle, effectivement, qu'on lit le mémorial de Sainte-Hélène, comme vraiment la construction de la gloire la plus durable de Napoléon, l'épopée napoléonienne transmise aux générations futures. Mais en réalité, lorsqu'on lit de près le mémorial, on s'aperçoit que son succès reposait sur autre chose, qui est d'ailleurs présente dans les extraits là qui ont été lus de Lascaz, c'est-à-dire l'idée du reporter, du fidèle compagnon qui dit tout, je dirais tout, sur la personne même de Napoléon. Et justement, ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que derrière cette construction de la gloire, il y a quelqu'un qui a vécu avec Napoléon, donc qui le connaît dans son intimité, et qui met en scène non seulement la vie quotidienne ordinaire de Bonaparte à Sainte-Hélène, mais aussi qui se met en scène lui-même. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Lascaz est très présent. Il ne s'efface pas du tout dans le mémorial devant la gloire de Napoléon. Au contraire, il se met en scène. Il se met en scène justement en compagnon fidèle, celui qui trouve son bonheur dans le fait de partager les événements les plus minimes, les plus minuscules, du moment qu'il est dans la proximité immédiate de Napoléon. Donc en fait, il y a vraiment l'invention d'une figure du fan. Alors, du fan politique.
Lascaz comme fan politique, ouais, pourquoi pas.
Mais on a vraiment, et c'est construit de manière très explicite dans le texte, et je pense que ça a beaucoup joué sur le succès du livre, notamment auprès de toute la génération romantique, parce que il y avait ces deux éléments. Il y avait l'élément glorieux, le récit des grandes victoires et de l'épopée de l'Empire, mais il y avait aussi l'aspect biographique, les détails de la vie de cette personne qui est Bonaparte.
Oui, le décor quotidien, où il est, où il vit, ses réactions immédiates.
Sa conversation de tous les jours.
De quoi sa table est faite.
Vous vous souvenez que dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel a 3 livres de chevet, les bulletins de la Grande Armée, donc l'épopée napoléonienne, les confessions de Jean-Jacques Rousseau, et le mémorial de Sainte-Hélène. Le mémorial de Sainte-Hélène, d'une certaine manière, fait la synthèse entre l'épopée et la biographie de l'homme célèbre.
Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous pourrions évidemment étendre cette réflexion bien au-delà, aller jusqu'aux grands écrivains du 19e siècle. Flaubert qui ne voulait pas se faire photographier, par exemple.
Oui.
Et puis Victor Hugo qui a très habilement joué des moyens modernes de communication pour être quasiment présent à Paris alors qu'il était encore sur son île de l'exil. Merci Antoine Lilti. Vous avez donc publié ce livre sur lequel nous avons fondé notre conversation, un livre important, qui s'intitule « Figure publique, l'invention de la célébrité 1750-1850 » et c'est l'éditeur Fayard qui vous a accueilli en 2014. Il y a exactement 10 ans, vous aviez déjà donné un ouvrage qui préparait celui-ci et qui s'appelait « Le monde des salons, sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle », paru également chez Fayard. Il faut également rendre hommage du côté des sociologues au livre de Nathalie Heinisch, De la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique, chez Gallimard en 2012. Ce livre vous a été utile dans votre réflexion ?
Oui, parce qu'il permet justement de réfléchir au lien entre célébrité contemporaine et les formes d'émergence de la célébrité au XVIIIe siècle. Donc c'est très utile d'avoir une réflexion de sociologues sur les formes de transformation actuelle de la visibilité.
Il arrive que les sociologues ou les médiologues exagèrent quelque peu l'inédit.
Alors ça, c'est le désaccord que j'ai avec ce livre, puis qui effectivement considère que tout commence en quelque sorte avec la photographie et le cinéma. En général, les historiens trouvent que les sociologues ne remontent pas assez dans le temps, et les sociologues trouvent que les historiens pensent que tout a commencé très tôt. Donc c'est une vieille dispute qui n'a pas fini d'être réglée.
Dans cette dispute, vous ne vous étonnerez pas que nous choisissions ici notre camp. Merci beaucoup. Merci Antoine Lilti. Vous savez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, que vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, plus complète avec les références et documents sonores que nous avons utilisés et que vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, je recevrai le professeur Henri Laurence, professeur au Collège de France, grand spécialiste du monde de l'islam, et nous poserons ensemble la question suivante. Les Arabes au 19e siècle, est-ce que c'est un concept, une idée qui serait une invention française? On ne parlait guère auparavant des Arabes, on parlait des Mahométans, de l'islam naturellement, mais pas des Arabes. C'est une question que nous nous efforcerons d'éclairer au cours d'une émission qui sera enregistrée en public à l'Institut du Monde Arabe, donc le vendredi 5 juin de 10h à 11h et qui sera diffusée le lendemain, samedi 6 juin. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par la diligence et l'efficacité de Jeanne Guéroux, avec aussi Antoine Tricot, réalisée par Patrick Molinier, avec Jacques Hubert à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et aussi pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique de Saint-Pastou. quelques instants, je passerai le micro à Dominique Rousset pour l'économie en question.